Un journal présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel Laurentin, bonsoir à toutes et à tous. Félicien Kabouga sera-t-il transféré à la justice internationale pour son rôle présumé dans le génocide des Tutsis du Rwanda en 94? Les avocats de l'homme d'affaires arrêté près de Paris au mois de mai font tout pour l'éviter, mais aujourd'hui la justice française s'est dite favorable à sa remise au mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Explication de Florence Turm en début de journal.
Christophe Castaner promet des sanctions contre les actes et les mots racistes au sein de la police. Le ministre de l'Intérieur réagissait à l'importante manifestation des soutiens de la famille d'Adam Traoré hier devant le palais de justice de Paris, manifestation interdite mais qui a quand même rassemblé 20 000 personnes. Nous allons y revenir.
Nous verrons quelle résonance politique cette manifestation a eue au sein du gouvernement et plus spécifiquement sur les promesses de Christophe Castaner. Nous écouterons l'avis du chercheur Sébastien Rocher. Nous irons également aux États-Unis dans ce journal où la religion est largement instrumentalisée par Donald Trump dans les suites de l'affaire George Floyd. Ce sera avec Claude Guibal. Et puis notre rendez-vous économie du mercredi, L'écho d'après, consacré cette semaine à l'agriculture de demain. La remise de Félicien Kabouga à la justice internationale, approuvée cet après-midi par la justice française. C'est la cour d'appel de Paris qui a validé ce transfert. L'homme âgé de 87 ans a été arrêté le 16 mai dernier à Asnières-sur-Seine après une cavale d'un quart de siècle. Ancien président de la radio-télévision libre des Mille Collines, créateur des milices inter-amouées, il est considéré comme un des organisateurs et comme le principal financier du génocide des Tutsis du Rwanda au printemps 1994. Une décision de la justice française cet après-midi contre laquelle les avocats de l'homme d'affaires rwandais vont essayer bien sûr de gagner du temps. Florence Turm.
Félicien Kabouga a été arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt émis par le mécanisme pour les tribunaux internationaux, une structure mise en place pour achever les travaux du TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a fermé ses portes fin 2014. La chambre de l'instruction de la cour d'appel a reconnu la validité du mandat d'arrêt en question, en dépit des arguments de la défense de Félicien Kabouga, lui demande à être jugé en France, comme l'ont été d'autres responsables présumés du génocide rwandais, et non pas à Arusha, en Tanzanie, où siège le tribunal de l'ONU dont il dénonce la partialité. Ses avocats ont donc aussitôt annoncé saisir la cour de cassation qui aura 2 mois pour se prononcer à son tour. Un délai supplémentaire qui, ajouté à ceux de la procédure à venir, inquiète les associations de victimes du génocide rwandais. À 85 ans, celui qui fut longtemps l'un des fugitifs les plus recherchés au monde invoque son âge et son état de santé défaillant, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et une récente ablation du côlon. Il a comparé à l'audience dans un fauteuil roulant et même si les crimes dont il est accusé et qu'il conteste restent imprescriptibles, les associations redoutent que son procès ne puisse jamais avoir lieu.
Florence Turm, au moins 16 civils dont 5 enfants, et ce n'est qu'un bilan provisoire d'après l'ONU, ont été tués la nuit dernière en Ituri, région située au nord-est de la République démocratique du Congo à la frontière avec l'Ouganda. En France, retour sur la mobilisation hier soir à Paris contre les violences policières à l'appel de la famille d'Adama Traoré, mort peu après son arrestation en 2016. Elle a rassemblé cette mobilisation quelques 20 000 personnes au pied du palais de justice de Paris. Des affrontements ont eu lieu à l'issue du rassemblement pacifique qui avait été interdit par le préfet de police de Paris. Les réactions politiques ont été nombreuses et côté gouvernement, c'est l'embarras qui prédomine aujourd'hui. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir Benoît.
Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis l'application de sanctions systématiques contre les actes racistes dans la police. Mais un peu plus tôt, Pierre, lors du Conseil des ministres ce matin, le sujet des violences policières n'a pas été évoqué, ce qui a laissé Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, un peu désarçonné face aux questions des journalistes.
Il n'y a pas de violence d'État instituée dans notre pays. Il faut être dans l'apaisement. Ce sont les mots de Sibeth Ndiaye au lendemain de ce rassemblement contre les violences policières dans la foulée des manifestations après la mort de l'Afro-Américain George Floyd. On sent la crainte de l'exécutif d'une possible contagion et d'ailleurs un certain embarras à établir un lien avec la situation aux États-Unis. Il faut aborder ces sujets avec énormément de prudence, commente la porte-parole du gouvernement. Opération déminage que prolonge dans l'après-midi Christophe Castaner devant les sénateurs. Il promet, lui, de sanctionner chaque faute, excès ou expression raciste commise par un policier ou un gendarme. « Je suis sur ce sujet intransigeant », dit le ministre de l'Intérieur. Opération déminage donc, car hier soir, le ministre Christophe Castaner s'était contenté d'un tweet pour dénoncer les débordements survenus devant le tribunal de Paris. Un message de fermeté que n'a pas apprécié l'opposition de gauche. Jean-Luc Mélenchon en profite pour dénoncer les violences policières impunies avec ostentation, alors que la droite, les Républicains, dénoncent le laxisme des autorités puisque la loi d'état d'urgence sanitaire a été bafouée. On le voit, la question des violences policières ressurgit dans l'actualité politique dans un contexte hautement inflammable, sur fond de violences policières, de manifestations aux États-Unis et d'exigences de justice en France pour Adama Traoré, mort en 2016. C'était il y a maintenant 4 ans.
Merci Pierre Neveu. Avant de retourner aux États-Unis justement, peut-on, va-t-on et peut-on aller, comme l'a dit Castaner, vers une tolérance zéro en France concernant les violences policières, notamment à caractère raciste? Écoutez ce qu'en dit Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions sécuritaires et notamment des questions de police. Il répond à Margot Delpierre.
Pour qu'il y ait une sanction, il faut qu'il y ait une faute. Et pour qu'il y ait une faute, si vous voulez, il faut qu'on ait un appareil qui soit capable d'enregistrer ces fautes. Et c'est cet appareil qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc pour ça, il faudrait encourager, par exemple, le fait de filmer les comportements policiers, que tous les policiers portent en permanence des caméras. Donc il faudrait des outils pour ça. Surtout, le problème n'est pas uniquement un problème de sanctionner les policiers. C'est aussi un problème de culture, c'est un problème de bien les former. Donc je pense pas qu'il faille juste avoir une approche punitive par rapport aux policiers. Il faut avoir une approche constructive pour fabriquer une autre manière d'avoir une relation avec les citoyens. Les autorités politiques et policières françaises arrivent bien à voir le racisme aux États-Unis, mais ils n'arrivent pas à le voir en France. Et ce refus de le reconnaître se traduit par leur refus de construire un appareil pour suivre éventuellement les actions et leurs effets et les progrès. C'est le refus des récépissés d'identité. Sous le mandat de M. Hollande, M. Valls, ministre de l'Intérieur, a écarté l'idée qu'on allait pouvoir compter les contrôles. Mais si on n'a pas d'outils pour compter les contrôles, on ne peut pas mesurer la discrimination. Aujourd'hui, la position de l'État, c'est de ne pas vouloir connaître les discriminations et d'affirmer en parallèle qu'elles n'existent pas.
Sébastien Rocher, auteur de La police en démocratie, paru chez Grasset. Il répondait à Margot Delpierre.
La mobilisation en mémoire de Adama Traoré, hier soir à Paris, faisait écho à la mort de George Floyd il y a 10 jours à Minneapolis. Et de nombreuses autres manifestations ont eu lieu depuis aux États-Unis comme à travers le monde.
Cet après-midi, par exemple, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Londres pour exiger que justice soit rendue. Londres, où un peu plus tôt, le Premier ministre Boris Johnson a qualifié de scandaleuse la mort de George Floyd. Pendant ce temps, aux États-Unis, de nombreux responsables religieux américains ont condamné avec sévérité l'attitude de Donald Trump, le président américain, face aux manifestations, sa fermeté d'abord, son comportement surtout. Les images de Donald Trump faisant déloger des manifestants pacifiques à Washington lundi soir pour pouvoir poser Bible à la main devant une église ont provoqué la colère de membres du clergé. Ils dénoncent une instrumentalisation de la religion à des fins politiques, une stratégie qui est bien rodée chez le président américain, Claude Guibal.
Traumatisant, insultant, quelque chose de sacré, détourné pour une posture politique. Ces mots, ce sont ceux de l'évêque épiscopalien de Washington et ils résonnent depuis en écho chez de nombreux responsables religieux américains qui dénoncent un acte honteux et moralement répugnant. Cette visite de Donald Trump à l'église épiscopalienne Saint-John, dégradée en début de semaine par des casseurs, est évidemment un message envoyé aux très nombreux chrétiens évangéliques blancs qui constituent le socle de ses soutiens. Plusieurs fois marié, divorcé, le président américain, qui on s'en souvient, se vantait, je cite, de pouvoir attraper les femmes par la chatte, n'a pas exactement le profil d'un religieux puritain, mais il a su soigner cette base à des fins électoralistes en lui donnant des gages, à commencer dès sa campagne par le choix de son vice-président, le très religieux Mike Pence. Une stratégie poursuivie dès le début de son mandat avec la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême ou encore en compliquant l'accès à l'avortement.
Cette base évangélique qui a massivement voté pour lui représente environ 15% de la population américaine. Or, à 5 mois de l'élection, Donald Trump doit absolument resserrer les rangs autour de lui, alors que son bilan économique, qui était le principal atout de son mandat, est en train de virer à la catastrophe avec les 40 millions d'Américains projetés dans le chômage par la pandémie, les plus de 100 000 morts du virus et désormais ses émeutes à travers tout le pays.
Claude Guibal, autre camouflet pour Donald Trump en provenance cet après-midi du secrétaire américain à la défense, Mark Esper, dans l'administration Trump donc. Mark Esper qui s'est dit opposé à l'idée de déployer l'armée dans les grandes villes des États-Unis pour juguler le vaste mouvement de protestation comme l'avait proposé, on s'en souvient, le président américain.
En France, le rapport annuel du contrôleur général des lieux de privation de liberté a été publié ce matin.
Benoît. Avec cette analyse sur les centres de rétention, des barbelés aux menottes en passant par les détecteurs de mouvement, ces centres où sont enfermés les immigrés clandestins en attente de leur expulsion prennent aujourd'hui de plus en plus un aspect carcéral, ce qui est en décalage complet avec leur fonction. Aucune amélioration n'est constatée dans les derniers mois, bien au contraire. Écoutez Adeline Hazan, elle est contrôleur général des lieux de privation de liberté, elle répond à Antoine Marette.
On sent un peu un désintérêt de la part des autorités de tutelle, à la fois dans l'aspect de ces centres de rétention qui ont de plus en plus un aspect carcéral avec des espaces cloisonnés, des grilles, avec aucune activité pour les retenus, des conditions d'hygiène déplorables, le tout sur fond d'un allongement important de la durée de détention, puisque depuis une loi de 2018 applicable depuis le 1er janvier 2019, la durée possible de rétention est passée de 45 jours à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. L'extérieur des centres revêt un caractère assez carcéral avec des clôtures, des grilles, aucune activité. Ceux qui sortent de prison et qui font un passage en centre de rétention avant d'être reconduits à la frontière nous disent souvent, quand on les voit, que c'est encore plus difficile comme condition que la prison.
Adeline Hazan au micro d'Antoine Marette. Sortie au moins temporaire de la crise sanitaire, début de la crise économique et de nouveau, des restaurateurs se retournent contre leur assureur, en l'occurrence AXA. Après la victoire en première instance à Paris d'un de leurs confrères, deux restaurateurs du Beaujolais a signé ce matin leur compagnie d'assurance en référé. L'audience a eu lieu devant le tribunal de commerce de Lyon. Ces restaurateurs qui pensaient être couverts par leur assurance multirisque au moment de la fermeture de leur établissement au début du confinement n'acceptent pas la fin de non-recevoir qui leur a été opposée. À Lyon, Mathilde Imberti.
Le Bacchus est une petite affaire familiale de la cuisine régionale à Lancier dans le Haut-Beaujolais. Monsieur cuisine, madame est en salle. Le Bacchus tourne bien jusqu'au 14 mars. Alors le couple, David Genillon et Valérie Nassy, pensent être assurés correctement.
Non, on avait repris notre contrat et on avait relu. C'était marqué épidémie. Pour nous, c'était bon, quoi. Enfin, on n'a pas. Mais apparemment, pour eux, non.
On vient réclamer un dû, la perte d'exploitation, c'est-à-dire que les charges qu'on a dû payer sans n'avoir rien rentré en chiffres, c'est. On a calculé à peu près 18 000 euros. Après, il faut voir que mon mari, par exemple, pas eu de salaire depuis 3 mois maintenant.
AXA s'appuie sur la stricte application du contrat et d'une clause en particulier qui stipule que l'épidémie, pour être prise en compte, ne doit toucher qu'un seul établissement. Ce n'est pas le cas, évidemment, avec le coronavirus. L'avocat des plaignants, maître Jean-Jacques Rinck.
Vous garantissez l'épidémie, vous devez payer. Ne cherchez pas à vous dérober par une clause abusive. Vous savez parfaitement, quand vous avez rédigé cette clause, que vous ne paierez jamais parce que cette clause est inapplicable dans la mesure où l'épidémie est générale et non pas limitée à un simple établissement.
La décision sera rendue dans une semaine. Elle est attendue par une cinquantaine d'autres commerçants ou artisans dans la même situation. Quant au restaurant Le Bacchus, il rouvre ses portes demain sans savoir s'il pourra absorber le choc.
Mathilde Imberti.
Rendez-vous du mercredi dans le journal de 18h. L'écho d'après, consacré cette semaine au secteur de l'agriculture, dont il n'a pas été beaucoup question dans les divers plans de relance annoncés ces dernières semaines.
Et pourtant, près de 15% des emplois dépendent de l'agriculture en France. Pourtant, les demandes de la société civile pour une agriculture plus responsable commencent à se faire entendre, c'est du moins ce que laisse penser la stratégie Farm to Fork de la ferme à la fourchette, rendue publique récemment par la Commission européenne. Les explications d'Anne Lorchouin.
Cette stratégie de la ferme à la fourchette pour une agriculture environnementale juste et saine, comme la présente le document de la Commission européenne, est qualifiée de cœur du Green Deal européen. Un Green Deal, on le rappelle, élaboré avant la crise sanitaire. Se nourrira-t-elle cette stratégie des enseignements de la crise? Cela dépend justement des leçons qui sont tirées. Elles sont de deux ordres. Pour certains, le système agroalimentaire européen, et particulièrement français, a permis de nourrir une population confinée sans pénurie ou presque, il est donc valide. Pour d'autres, cette crise a révélé la forte dépendance de notre système. Nicolas Giraud, le porte-parole de la Confédération paysanne.
Dépendance à une course à vouloir toujours produire plus à moins cher, notamment avec le problème des saisonniers. À partir du moment où les frontières se sont fermées, plus de saisonniers pour les récoltes de fraises, d'asperges ou d'autres fruits et légumes. Ça pose problème parce que c'est un système qui tient sur le fait qu'on cherche à abaisser les coûts sociaux en particulier, mais aussi les coûts environnementaux au plus bas pour être compétitif sur certains marchés. Si c'est pas nous qui abaissons nos coûts sociaux ou environnementaux, ça va être un autre pays. Et en fait, on est toujours dans une guerre économique, à vouloir produire plus à moins cher, avec moins de paysans. Et ça a quand même été un sacré révélateur pour plus de monde. C'est sorti un peu du cercle des initiés.
Mais produire beaucoup et à bas coût, c'est encore la vision qui prévaut en majorité au sein des instances européennes. Pierre-Marie Aubert, qui coordonne le programme politique publique pour l'agriculture européenne à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, fait ainsi remarquer que dans la stratégie de la Commission, on parle d'objectifs, mais très peu de la façon dont on atteint ces objectifs.
Le gros trou dans la raquette, eh bien, c'est évidemment la production animale. Il n'y a rien nulle part sur la manière dont on produit de la viande ou du lait ou des œufs. Or, on sait très bien que le gros enjeu de demain, ça va être de savoir comment est-ce qu'on élève des animaux, à la fois pour des raisons environnementales, de bien-être animal et de qualité nutritionnelle de ces aliments. Et ça, c'est pas abordé.
Alors dans ce débat, Anne-Laure, quelle place pour la PAC, la politique agricole commune, qui est en ce moment en cours de renégociation ?
Une place stratégique, évidemment, c'est sans doute via cet argent de la PAC qu'on pourrait changer la structure de notre politique agroalimentaire. Aujourd'hui, les tenants d'un certain conservatisme agricole, pourrait-on dire, sont majoritaires dans les instances, mais les débats au sein de ces instances sont plus visibles et certains dirigeants peut-être plus à l'écoute. Pour Pierre-Marie Aubert, le moment, en tout cas, est favorable.
On est au moment où tout le monde réfléchit à combien de milliards il va mettre sur quoi pour le plan de relance. Et donc, si on dit, demain, le plan de relance de l'agriculture française et européenne sur le volet agricole, il passe par des investissements X, Y, Z qui vont créer W, A, B, C, D d'emplois, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir une part de ces investissements qui soient réalisés. Et puis, il y a une question aussi de comment on régule et comment on organise les secteurs agroalimentaires. Aujourd'hui, le secteur agroalimentaire, il est quand même très majoritairement tourné vers la question du gain de valeur. Mais le gain de valeur, aujourd'hui, c'est où dans l'agroalimentaire ? Il se fait dans les produits le plus transformés possible. Ce faisant, dans les produits le plus transformés possible, la question de savoir comment et où est produite la matière première devient extrêmement secondaire. Et donc aujourd'hui, on a un outil industriel agroalimentaire qui génère de la valeur de manière totalement déconnectée des modalités de production agricole. Donc comment est-ce qu'on réorganise ce tissu pour créer de la reconnexion ? Je pense que ça, le gros enjeu.
À noter enfin cette idée lancée par des ONG et des associations paysannes qui souhaitent une sécurité sociale alimentaire pour placer l'alimentation en dehors des lois du marché, comme à l'époque on l'avait fait pour la santé.
Anne-Laure Chouin est à retrouver sur notre site internet un dossier complet sur ce sujet. franceculture.fr, rubrique l'écho d'après. L'application de traçage de contacts pour smartphone Stop Covid a visiblement fait un bon début. Elle a été mise à disposition hier sur les plateformes de téléchargement pour mobile et elle se classait ce matin en tête des téléchargements en France. D'après le secrétaire d'État au numérique Cédric O, on compte au moins 600 000 téléchargements. Et dans le monde d'après, quel mot pour repenser ce qui nous est arrivé avec cette crise sanitaire? Voyons avec Antoine Marette comment la nouvelle édition du Petit Larousse, édition 2021, disponible à partir d'aujourd'hui, s'est saisi ou pas de la question.
La Covid-19 a fortement influencé le langage quotidien. Un mot notamment a fait son apparition dans la bouche des Français, déconfinement. Mais on ne le retrouve pas dans l'édition 2021. Bernard Cerchilini est linguiste et conseiller scientifique du Petit Larousse.
Le mot confinement existe depuis longtemps. Il s'est dit des forçats, des bagnards, puis récemment des malades à qui on prescrivait la chambre individuellement. Le sens confinement de toute une population est récent. Mais ce qui est tout neuf, c'est déconfinement, qui ne figure dans aucun dictionnaire. Le mot a été créé il y a 2 mois. Il y a eu tout un mouvement de la langue. C'est toujours comme ça en période de crise. Un exemple, là aussi, masque a depuis longtemps 2 sens. Un sens majoritaire, la dissimulation, et minoritaire, la protection. Et le verbe masquer ou se masquer fonctionnait que pour la dissimulation. Or, depuis 2 mois, se masquer, c'est se protéger.
Le terme déconfinement devrait donc faire son apparition dans la prochaine édition, celle de 2022. En revanche, certainement pas le mot cluster qui agace les linguistes. Ils préfèrent à cet anglicisme le mot foyer, qui existe déjà dans la langue française.
Antoine Marette, et puis avant de refermer ce journal, à l'entrée, hydroxychloroquine, cette information qui nous parvient à l'instant. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, annonce la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Un temps agité sur la majeure partie du pays, demain des nuages, des pluies, un temps souvent orageux, notamment du Massif central jusqu'aux Ardennes. Température maximale en baisse de 15 degrés au nord jusqu'à 22 degrés au sud, au plus chaud de l'après-midi.